Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, quel plaisir de vous retrouver sur Radio Okapi. Merci d'être à l'écoute pour cette nouvelle édition de votre journal. Au programme aujourd'hui, des informations essentielles venues de tout le pays et de la région. Voici les titres. RDC Rwanda avancé dans le processus de paix à Washington. Quatrième réunion du mécanisme sécuritaire pour accélérer l'application de l'accord signé en juin. Quel progrès ? Réponse dans ce journal. Kasaï 2, grève des enseignants, cours suspendus depuis 3 jours. Les grévistes réclament 3 mois de salaire impayé. La Fénéco presse le gouvernement d'agir pour éviter une année scolaire compromise et des milliers d'élèves livrés à eux-mêmes. Crise humanitaire, le HCR contraint de fermer 30 bureaux en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Face au désengagement de plusieurs bailleurs, l'agence onusienne tire la sonnette d'alarme. Quelles conséquences pour les réfugiés et déplacés internes, notamment en RDC? Nyankonde, directeur régional du HCR, nous livre son analyse et ses recommandations dans un entretien exclusif à suivre en fin de ce journal. Gisèle Cage à la présentation. On commence avec une information majeure sur le processus de paix dans la région de Grand Lac. La RDC et le Rwanda viennent de franchir une étape importante. Le 19 et 20 novembre à Washington, s'est tenue la 4e réunion du mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité. Autour de la table, des représentants des États-Unis, du Qatar, du Togo, médiateurs mandatés par l'Union africaine ainsi que la Commission de l'Union africaine. Objectif: accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier à Washington. Quels sont les points clés et les avancées concrètes? Martial Papimukeba nous en donne les détails.
Selon un communiqué du département d'État américain, la RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement à faire avancer l'ordre d'opération pour mettre en œuvre les concepts d'opération CONOPS du plan harmonisé visant la neutralisation des FDLR, le désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda. Les observateurs ont salué les efforts des deux parties pour faciliter la démobilisation, les rapatriements et la réintégration des FDLR. La réunion a fait le point sur la première phase de l'ordre d'opération, notamment les partages des renseignements et les opérations de sensibilisation menées par la RDC pour inciter les FDLR à déposer les armes. La deuxième phase, centrée sur la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda, a également été abordée. Les participants ont insisté sur la cohérence entre les processus de Doha et de Washington, saluant la récente signature de l'accord cadre de Doha entre les gouvernements et l'AFC M23. En fait, le communiqué précise que le Togo accueillera le 17 janvier 2026 une réunion de haut niveau pour consolider le processus de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs, renforcer la confiance et faire progresser les processus. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
C'est une visite historique à Kinshasa. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est arrivé ce vendredi pour sa toute première visite officiel en RDC. À son arrivée à l'aéroport international de Ndjili, il a été accueilli par le président Félix Antoine Tshisekedi et plusieurs membres du gouvernement. Le Qatar, rappelons-le, joue un rôle clé dans la médiation entre la RDC et l'AFC dans le cadre du processus de Doha au programme des échanges avec le chef de l'État sur la paix dans l'est du pays. Avant Kinshasa, Cheikh Tamim a passé 2 jours au Rwanda où il a rencontré le président Paul Kagame pour un tête-à-tête très privé dans sa ferme de Kibugabuga. Une séquence diplomatique qui en dit long sur l'importance de ces tournées dans la région. Séquence sécuritaire, la mission des Nations Unies condamne avec la plus grande fermeté les attaques meurtrières perpétrées par les ADF entre le 13 et 19 novembre dans plusieurs localités du territoire de Lubero au Nord Kivu. Ces violences ont coûté la vie à de nombreux civils. La MONUSCO réaffirme son engagement au côté des communautés et promet de continuer à soutenir les autorités congolaises pour protéger les populations, prévenir les violations de droits humains et lutter contre l'impunité. Elle travaille main dans la main avec les FARDC, les partenaires régionaux impliqués dans les opérations conjointes, ainsi que les acteurs locaux. Les détails avec Babel Mpongo Massimango.
Selon les informations recueillies, le bilan des attaques dans les secteurs de Bapéré et la chefferie de Bassouaga est de 89 civils tués, dont au moins 20 femmes et un nombre encore indéterminé d'enfants. Dans la localité de Biamboué, 60 km à l'ouest de Lubero, au moins 17 civils, dont des femmes internées dont la maternité ont été tuées dans un centre de santé de l'église catholique. Au cours de l'attaque, 4 pavillons abritant des malades ont été incendiés. D'autres localités, notamment Mabiango, Tunarudi, Sambalissa, Toucha et Boussili, ont également été la cible d'exactions comprenant des enlèvements, des pillages de médicaments, des incendies de maisons et la destruction des biens appartenant à des populations déjà confrontées à une situation humanitaire extrêmement précaire. La MONUSCO présente ses sincères condoléances aux familles et communautés endeuillées et exprime toute la solidarité des Nations Unies aux populations affectées. Elle rappelle que les violences commises contre les civils, y compris dans des structures médicales, peuvent constituer des crimes de guerre et des violations graves du droit international humanitaire. C'est ce qu'a déclaré Bruno Le Marquis, chef par intérim de la MONUSCO. La MONUSCO exhorte les autorités congolaises à diligenter sans délai des enquêtes indépendantes et crédibles afin d'identifier les responsables et les complices de ces massacres et de les traduire en justice. Bruno Le Marquis réitère également l'appel du secrétaire général des Nations Unies demandant à tous les groupes armés locaux ou étrangers de déposer les armes sans condition.
Nuit agitée à Walungu, le chef-lieu du territoire a été secoué par des tirs nourris entre jeudi soir et vendredi. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Selon des témoins, des obus ont endommagé une partie de l'école primaire Walungu 2, connue sous le nom d'Epoa, perché sur la colline au-dessus du stade Mafundwe. Une maison en construction a également été touchée dans le village Kabikwinja. Quelle est la situation sur place, Richard Junior Kamunga nous en dit plus.
La population a été réveillée vers minuit par des crépitements de balles. En se réveillant ce vendredi, les habitants ont constaté d'importants dégâts assis une bonne partie de l'école primaire Walungu 2.
La nuit d'aujourd'hui donc, à 0h, ici à Walungu Centre, la population a été déstabilisée par les crépitements des balles. C'était des obus qui étaient lancés cette nuit dans différentes directions. Une bombe est tombée sur une maison en construction dans le village Kabikwinja, à moins de 2 km du chef-lieu du territoire de Walungu. Il y a aussi une autre qui est tombée à l'épée de Walungu et qui a endommagé la porte d'une classe cette nuit.
Des jours auparavant, des combats ont opposé les Wazalondo aux rebelles des AFC-M23 dans plusieurs coins du territoire de Walungu, notamment sur l'axe Mugogo, Bideka, Walungu Centre et Kanyola. 3 morts à Mukoko, selon certaines sources, mais d'après la société civile, les bilans demeurent mitigés. Une accalmie apparente s'observe ce vendredi sur les lignes de front précitées. Cependant, les combats continuent autour du site minier de Karimbu, à la limite entre Walungu, Mwenga et Shabunda.
En Ituri, la MONUSCO est sur le terrain depuis jeudi pour une vaste campagne de sensibilisation auprès des élèves et des autorités scolaires. Objectif, promouvoir la cohésion sociale et le respect de la diversité dans les écoles de Djaïba et Masumbuko dans les territoires de Djougou ainsi qu'à Komanda dans les territoires d'Irumu. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale du droit de l'enfant célébrée chaque 20 novembre. Près de 1000 élèves ont participé à ces activités, axées aussi sur la prévention des violences sexuelles et les risques de recrutement des enfants par des groupes armés. Reportage signé Isaac Raymond Yopé.
À Djaïba, dans les territoires des Djougou, des élèves, des enseignants et des autorités scolaires des communautés Lindou et Hema se sont retrouvés dans une école pour célébrer la Journée internationale des droits de l'enfant. Ils ont été sensibilisés à la protection de leurs droits, notamment à la prévention des violences sexuelles et au risque de recrutement des enfants dans les groupes armés qui sont des violations graves des droits de l'enfant. Les participants ont également été formés aux mécanismes de protection des civils, dont les systèmes d'alerte précoce. Les mêmes notions ont été présentées aux élèves des Masoum Mouko, toujours dans les territoires de Djougou. Ils ont aussi bénéficié des fournitures scolaires distribuées par les contingents de la MONUSCO. À Komanda, dans les territoires d'Irumu, plus de 830 élèves ont pris part à cette journée de sensibilisation. En plus des messages sur la cohabitation pacifique, ils ont été formés aux pratiques d'hygiène et aux premiers secours en camp d'urgence sanitaire dans une zone où les groupes armés restent actifs. Les élèves ont également participé à des jeux amicaux. Selon la mission onusienne, l'objectif de ces activités est de renforcer la cohabitation pacifique, de promouvoir le respect de la diversité et de garantir la protection des droits de l'enfant. Bounia, Isaac Raymond Yopé, Radio Kapi.
Kasaï Central. Dans la province éducationnelle Kasaï 2, les enseignants ont lancé une grève il y a 2 jours, motif 3 mois de salaire impayé, septembre, octobre et novembre. Conséquence directe, les élèves sont livrés à eux-mêmes. La FENECO, Fédération nationale des enseignants du Congo, appelle le gouvernement central à agir rapidement pour régler ces arriérés et permettre la reprise des cours. Les détails avec André Katinde Ngalamulume.
Ça fait maintenant 3 jours que les enseignants de la province éducationnelle Kasaï 2, se trouvant dans les territoires de Mweka, Luebo, Ilebo et Dekese, ont décidé de ne pas enseigner les enfants. D'après nos sources, ces enseignants réclament le paiement des arriérés de 2 mois, septembre et octobre, ainsi que la paye du mois de novembre, qui tend vers sa fin. Félicien Lobomwamba, président de la Fédération nationale des enseignants du Congo, FENECO Kasaï, invite les gouvernements à payer ses enseignants pour permettre aux élèves de bien poursuivre avec le cours. La nouvelle société civile de Luebo craint que cela puisse avoir de l'impact sur la formation des enfants. Basile Mbanza, son coordonnateur, qui reconnaît aux enseignants le droit de réclamer leur salaire, les invite à occuper les enfants le temps pour le gouvernement de s'acquitter de son devoir.
La nouvelle société civile congolaise encourage les enseignants à rester résilients, à continuer à encadrer nos enfants malgré la souffrance. Nous sommes à vos côtés pour que vos droits soient rétabli.
Kananga, André Katindengala Mulume, Radio Kapi.
Kinshasa, 10 ans déjà pour l'Ordre national des experts comptables de la RDC, créé par l'ordonnance loi du 12 février 2015. L'ONEC a célébré mercredi à Kinshasa une décennie d'existence sous le thème 10 ans pour rayonner au-delà des frontières. Un anniversaire marqué par une annonce majeure, l'entrée officielle de l'ONEC dans l'élite mondiale des membres de la Fédération internationale des experts comptables. Écoutez, Dieudonné Mampassi Mabaya, rapporteur du Conseil national de l'ONEC, dont cet extrait choisi par Marcel Ngombo.
Que nous vous accueillons ce soir pour célébrer ensemble les 10 ans de l'ONEC. Cette décennie marque un parcours de rigueur, de professionnalisme et d'engagement au service de l'intérêt public. Notre adhésion à l'IFAC cette année est une reconnaissance internationale de notre travail collectif. Merci à vous tous, membres, experts comptables, partenaires qui nous accompagnent tous les jours d'avoir contribué à cette réussite collective.
Lubumbashi, la tension retombe à l'entreprise minière CEMAF après quelques jours d'inquiétude. Les travailleurs préoccupés à l'approche du 30 novembre, date butoir pour l'arrêt total des opérations, y compris la production de cathodes de cuivre, restent sur les qui-vive. Ils lancent un appel pressant aux autorités pour trouver une solution durable afin d'éviter le spectre du chômage, faute d'investisseurs. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Cette grogne a été maîtrisée à la suite des échanges entre les travailleurs en colère et les membres de la délégation syndicale de l'entreprise CEMAF. Alertés, ces syndicalistes se sont immédiatement rendus sur place pour apaiser cette tension, assurant que tout sera mis en œuvre pour que les droits des travailleurs soient protégés conformément au Code du travail et aux lois de la République. La présidente de cette délégation syndicale a réaffirmé que des investisseurs sérieux sont en lice et n'attendent plus que les autorisations nécessaires pour entamer les négociations avec l'entreprise. Sidonie Taoudjiri.
Deux repreneurs sérieux, Jindal et Virtus, sont en lice. Mais ils n'ont toujours pas reçu les autorisations nécessaires pour ouvrir les discussions avec l'entreprise. Ce retard met gravement en danger les finances de CEMAF, déjà au rouge à l'approche de la date butoir annoncée.
Après les échanges avec les permanents syndicaux, les travailleurs de CEMAF se sont calmés et ont repris les activités dans l'espoir d'une réponse rapide des autorités. Même si l'implication du gouvernement congolais a été perceptible, aucune issue concrète n'a encore été enregistrée, laissant ses travailleurs dans l'incertitude. L'entreprise CEMAF est en vente depuis une année et les processus n'évoluent pas au risque de mettre en péril plus de 3000 emplois.
Direction Maniema, où se poursuit la campagne de réparation des fistules vésico-vaginales à l'hôpital général de référence de Kindu. Nous en sommes au troisième jour et déjà une dizaine de femmes ont été opérées sur les 70 attendues. Les autres patientes sont en file d'attente pour bénéficier de cette intervention qui redonne espoir. Cette initiative s'inscrit dans la lutte contre une pathologie qui touche des milliers de femmes en RDC. Florence Kizalunga s'est rendue à l'hôpital provincial où se déroule ces opérations. Elle nous propose ce reportage.
Plusieurs femmes porteuses de fistules accueillent bien cette campagne. Elles viennent de partout. C'est le cas de Madeleine Boissoussa.
Je suis venue de Pangui au village de Kantitoula. J'étais bien accueillie à l'hôpital général et je suis déjà opérée. Dieu nous a aidés. Je remercie.
Aziza Barouti, ayant réalisé plus de 20 ans avec cette maladie, remercie ses gynécologues qu'elle qualifie de sauveurs.
J'ai tellement souffert. Dieu m'a aidé. On m'a déjà opéré. Je remercie seulement Dieu. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas. Je n'ai ni père ni mère. Je suis seule. Je remercie beaucoup. Je mange et j'ai les médicaments. Je demande aux mamans porteuses de fistules de venir à l'hôpital général.
Sur place à l'hôpital, d'autres femmes qui sont en attente croient déjà à leur guérison.
Je suis ici à l'hôpital général. J'attends être opérée. J'ai une fistule. Je suis très très heureuse puisque je serai guérie car les gynécologues sont arrivés.
Sachez que ces interventions s'effectuent au bloc opératoire moderne douté par Moïse Katumbi. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La France a annoncé ce vendredi qu'elle allait adapter son dispositif diplomatique et consulaire au Mali en réduisant ses effectifs. Ces décisions interviennent dans un contexte de forte dégradation sécuritaire marqué par un blocus imposé depuis septembre par le JNIM, groupe affilié à Al-Qaïda qui asphyxie l'économie malienne en bloquant le ravitaillement en carburant. Selon le ministère français des Affaires étrangères, cette mesure s'inscrit dans la continuité des démarches prises par d'autres partenaires comme les États-Unis, le Royaume-Uni qui ont déjà évacué leur personnel non essentiel. Une décision qui illustre la gravité de la situation et les tensions persistantes dans la région sahélienne.
L'invité.
Le HCR tire la sonnette d'alarme. 30 bureaux ont fermé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, y compris en RDC, en cause le désengagement de plusieurs bureaux qui ne respectent plus leurs promesses d'aide aux réfugiés déplacés internes. Pour en parler, nous recevons Nyon Kondé, directeur régional du HCR. Il revient sur cette problématique au micro d'Askan Zibia Tayoro à l'issue de sa mission officielle en RDC. Suivez.
Monsieur Nyon Kondé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en visite en RDC, c'est une visite officielle depuis samedi et vous avez entamé une descente dans la province du Kasaï, précisément à Kananga. En quoi a consisté vraiment votre mission en République démocratique du Congo?
Donc, merci de me recevoir, merci de donner l'opportunité au HCR de s'exprimer à travers ma voix. Depuis le 1er octobre, nos opérations au Congo RDC sont gérées à partir du bureau régional de Dakar. Donc il était de bon ton que je vienne apprendre davantage de nos opérations, échanger avec les autorités qui sont les premières concernées, qui gèrent donc les questions de déplacement sur leur territoire, mais aussi aller à la rencontre des populations affectées par les questions de déplacement forcés et bien entendu échanger avec un parterre de partenaires pour comprendre ensemble comment est-ce qu'on peut continuer à travailler pour renforcer la protection des populations déplacées de force et au-delà, comment nous assurer qu'on puisse trouver des solutions.
Vous avez été à Kananga, on aurait appris que vous avez fermé la sous-délégation, comme vous l'appelez dans votre jargon. Pourquoi ?
Qu'on a été présent dans cette province depuis près de 9 ans okay. à la suite des événements tragiques. Je ne me rappelle pas si je peux
Kamuina-Sapu.
Kamuina-Sapu, voilà. Qui a vu donc le déplacement de près de 1 300 000 populations, y compris à peu près 35 000 parmi eux qui ont traversé les frontières pour se retrouver du côté de l'Angola. Donc 9 ans après, aujourd'hui, en 2025, il y a énormément de travail qu'on a pu faire aux côtés de ces communautés, mais aussi des autorités. Donc pour nous, on pense et on estime que le travail a été fait, mais mieux, on a réussi aussi à capaciter des acteurs locaux. Donc on quitte, on ferme au mois de décembre, mais en fait, en réalité,
on garde un œil, on est présent, donc on ferme le bureau, mais on reste présent autrement pour continuer d'agir au bénéfice des populations.
Alors, le nœud du problème, c'est quoi? C'est que vous n'avez plus d'argent.
Il y a cette réalité, on ne peut pas la nier, parce que tout le monde sait à travers l'actualité que les acteurs humanitaires ont été énormément impactés depuis le début d'année à cause de la décision prise par certains bailleurs. Le premier bailleur pour nos opérations, ce sont les Américains.
Tout à fait.
Donc, les Américains pesaient à hauteur de 60%. 60% dans nos budgets pour nos opérations en Afrique de l'Ouest centrale. Des bureaux ont été fermés dans la région, pas seulement ici au Congo. C'est près de 30 bureaux. Et pour le ICR, c'est énorme.
Là, c'est l'administration Trump.
Non, je dirais pas que c'est l'administration Trump. Je dirais que c'est la plupart des bailleurs. C'est la réalité aujourd'hui de ce que l'on voit un peu comme aide, que ce soit l'aide humanitaire. On le ressent rapidement parce que c'est là où il y a un besoin d'apporter une réponse urgente. Mais aussi tout ce qui participe à l'aide publique au développement. Donc il n'y a pas que l'administration Trump, on le voit un peu partout. Et pour moi, c'est le lieu de lancer un appel aux bailleurs de rester engagés parce que les besoins sont énormes. Les populations dans ma région, dans la région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, on parle de 4 millions de réfugiés et de 14 millions de déplacés internes qui sont en attente de solutions. Ce sont des populations dont les vies sont suspendues. Et on a besoin de soutien pour pouvoir travailler à reconstruire ces vies, à les ramener dans une forme de dignité.
Est-ce que le ACR sera en mesure de continuer son travail ou alors il va encore continuer à fermer d'autres sous-délégations?
Non, on espère que non. Ce que je peux dire, c'est que nous allons rester au Congo RDC. Le ACR ne quittera pas le Congo RDC. D'ailleurs, vous avez vu, à la lumière des négociations et des mécanismes de paix, le ACR a été nommément cité à côté d'autres acteurs. Cela exprime l'attente des autorités de nous voir rester engagés et jouer pleinement un rôle d'appui-conseil. Donc je peux vous garantir que le ACR restera. Mais là, on restera et peut-être qu'on va travailler différemment avec nos nouvelles approches.
Alors, vous avez fermé la sous-délégation des Kananga. Qu'en est-il vraiment des infrastructures?
On est en train, en ce moment, on en a discuté avec monsieur le gouverneur sur place, pour voir un peu ces infrastructures, qu'elles soient mobiles ou immobiles, qu'est-ce qu'on va en faire? Ce que nous faisons, c'est de renforcer les acteurs locaux pour que ces acteurs restent en capacité de pouvoir faire le travail.
Monsieur Nyong Kondé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Nyong Kondé, directeur régional du ACR, qui nous a éclairé sur la fermeture de 30 bureaux en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, dont la RDC, conséquence du désengagement de plusieurs bailleurs face à l'aide aux réfugiés et déplacés. C'est tout pour ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informé en temps réel. À bientôt pour une nouvelle édition. Merci.